Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Didier Houssin.
Bonjour.
Vous avez été chirurgien, chef de service à l'hôpital Cochin. Comme directeur général de la santé pendant 6 ans, vous avez eu à affronter plusieurs épidémies, le chikungunya en 2005, puis la grippe aviaire, puis le H1N1 en 2009. Épisode très éclairant pour la crise actuelle, on va y revenir un peu plus tard. Mais d'abord, le masque qui devient une question à la fois stratégique et polémique. Vous êtes membre, Didier Houssin, de l'Académie de médecine qui vient de recommander le port du masque. À votre avis, devrions-nous ou devrons-nous tous porter un masque pour se protéger et faire reculer l'épidémie?
L'Académie nationale de médecine, effectivement, a travaillé sur ce sujet et recommande que la population qui est amenée, malgré tout, en période de confinement, à devoir sortir, parfois, pour faire des courses, pour s'aérer. Je ne parle pas là des professionnels qui doivent, bien sûr, être protégés au maximum, mais quelqu'un qui porte un masque, finalement, protège un peu ses concitoyens en ne projetant pas des virus si c'est un porteur sain ou s'il est en période d'incubation ou s'il pense avoir été guéri mais ne l'est pas complètement. Et donc, si chacun porte un masque dans cette période-là, finalement, tout le monde se protège mutuellement et donc c'est une mesure supplémentaire de protection et de retardement de la propagation du virus.
Le problème, Didier Houssin, c'est que si on considère que le masque est efficace, s'il fait effectivement barrage à la transmission du virus, à quoi bon rester confiné? Ça n'a plus de sens.
Alors, malgré tout, on sait très bien que le port du masque n'est pas une mesure qui a une efficacité absolue. Et donc, ça ne peut être qu'une mesure supplémentaire. Dans la phase actuelle, l'objectif était évidemment de protéger, d'éviter un afflux massif de personnes gravement malades, en particulier dans les services de réanimation. Donc, le confinement a été à juste titre décidé, comme dans beaucoup de pays, pour protéger les établissements de santé face à un afflux de patients. Il s'agit d'une mesure de renforcement supplémentaire des mesures aujourd'hui préconisées, dont le confinement fait partie. Mais il faut aussi se préparer à ce qui sera la sortie du confinement. Et il est vraisemblable, c'est l'avis de l'Académie nationale de médecine, que recommander le port du masque par l'ensemble de la population en sortie de confinement sera également une mesure de précaution dans cette période-là.
Pas efficace à 100%, donc, mais peut-être utile en renforcement. C'est pour ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont vous êtes l'un des conseillers, ne recommandez pas le port du masque pour tous dans cette crise?
Disons que ça ne peut pas être considéré comme une méthode, disons, à privilégier. Il est sûr que ce serait beaucoup mieux de disposer de vaccins, de médicaments antiviraux. Il est beaucoup plus important, évidemment, de protéger les professionnels de santé qui sont confrontés aux patients et les professionnels les plus exposés. Mais ça peut être une mesure supplémentaire et il faut être attentif à l'expérience des pays d'Extrême-Orient qui, depuis l'épidémie de SRAS, depuis l'épidémie de MERS en Corée du Sud, ont finalement adopté, je pense au Japon aussi, l'habitude de porter un masque dans les périodes d'épidémie de maladies respiratoires. Et après tout, finalement, pourquoi ne pas s'inspirer de ces initiatives?
Comment voyez-vous la suite, Didier Houssin, avec ou sans masque, enfin plutôt avec un masque sur le visage, le retour à une vie normale dans nos sociétés aujourd'hui confinées? Ce sera long et compliqué?
Ce sera sans doute assez long. Quand on lit ce qui est publié actuellement en Chine sur la ville de Wuhan, on voit bien que le retour à une vie normale se fait au prix de, disons, d'une certaine lenteur, de difficultés, de souffrances. Là, vous évoquiez Marianne Faithfull, « As tears go by », je crois que c'est bien ça. C'est-à-dire que, malheureusement, les choses ne vont pas retourner immédiatement à la normale. Il y aura une phase de transition, une sorte de réapprentissage de la vie normale, probablement.
De plusieurs mois?
Ça, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire.
Oui, parce qu'il y a encore l'incertitude sur est-ce que le virus peut continuer de circuler jusqu'au prochain hiver? Est-ce qu'il passera l'été? Est-ce qu'il supportera la remontée des températures et la chaleur, hein?
Alors,
ça n'est pas établi.
On ne sait pas aujourd'hui quelle va être l'influence de la température et de l'hygrométrie sur ce virus. On le sait un peu pour les virus de la grippe, mais coronavirus, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas non plus quelle est la proportion de la population qui a été exposée au virus et qui donc est possiblement immunisée. Malheureusement, on n'a pas de vaccin et donc effectivement, le virus va poursuivre sa stratégie qui est de finalement d'occuper le maximum de la population humaine. Mais il y a un moment donné où il va se heurter à une partie de la population suffisamment immunisée. Toute la question est de savoir quelle sera cette partie de la population immunisée afin de prédire oui ou non, est-ce qu'il y aura éventuellement une seconde vague épidémique. Mais ça, seules des études de séroépidémiologie permettront de le montrer.
Oui, ça veut dire que forcément, dans les prochains mois, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous sera marqué, identifié par rapport au virus, c'est-à-dire que le pays sera composé de deux catégories de Français, les naïfs et les immunisés.
Alors, disons d'un point de vue théorique, oui, mais en pratique, il serait sans doute pas souhaitable de considérer que chacun va porter un papier avec positif ou négatif. En plus, ce ne serait pas probablement réaliste ni opérationnel. Et puis, les tests biologiques, vous savez, ne sont pas des tests qui donnent nécessairement des résultats toujours absolument évidents. En plus, il faut les avoir en quantité suffisante, il faut qu'ils soient suffisamment fiables. Donc il n'est pas certain que la question du résultat des tests soit un élément déterminant pour prendre des décisions en matière de sortie de confinement.
Oui, mais des décisions éventuellement individuelles pour chacun d'entre nous. On ne sera pas tous égaux et exposés de la même façon à la progression de l'épidémie et au virus.
Ah ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus exposés sont ceux qui sont exposés aux malades, c'est-à-dire les professionnels de santé dans tous les secteurs, mais aussi les professionnels les plus exposés, les personnes qui travaillent en guichet, en accueil ou dans le domaine de la sécurité, par exemple.
Didier Houssin, ancien directeur général de la santé, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on reparle de l'épidémie de 2009 dont vous avez été l'un des acteurs. Ce sera dans un instant, après une courte pause.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec mon premier invité Didier Houssin, je rappelais professeur que comme directeur général de la santé entre 2005 et 2011, vous avez eu à affronter plusieurs pandémies, dont le H1N1 en 2009. C'est une crise dont vous avez fait le récit dans un livre « Face aux risques épidémiques » chez Odile Jacob, dont vous vouliez qu'il soit un aide-mémoire contre l'oubli des crises épidémiques, contre l'oubli. Parce que on se souvient des doses de vaccins et des masques qui nous sont restés sur les bras, mais pas de la catastrophe annoncée qui finalement n'a pas eu lieu. Comment expliquez-vous qu'il y ait eu une surestimation du risque en 2009 et une sous-évaluation en 2020?
Alors c'est un sujet difficile. Bon, je pense qu'il y a eu la clé a été la grippe aviaire et la menace H5N1. Vous vous souvenez de ce virus qui contaminait les oiseaux et qui a conduit, parce que la menace était très forte, le virus était très dangereux, à se préparer de façon extrêmement active à partir de 2005, à constituer des stocks de masques, d'antiviraux, à préparer la fabrication rapide de vaccins adaptés à ce type de virus. Et donc, on s'est préparé effectivement de façon très active à cette menace. Et puis, de façon inattendue, est survenue une pandémie d'une autre nature, H1N1, pour laquelle finalement on était plutôt bien préparé. Certains ont dit ensuite trop préparé, car elle s'est révélée finalement un peu moins grave que prévu, même si elle a quand même fait 200 000 décès à la surface du globe. Et on peut imaginer qu'à la suite de ce constat, je me souviens qu'on avait été très critiqué pour avoir, je dirais, préparé peut-être de façon excessive le pays, eh bien, il y a eu sans doute, on est passé de l'autre côté du cheval et peut-être une certaine démobilisation. L'oubli, si vous voulez, il fut un temps où on considérait que c'était une ruse du diable. Eh bien, je crois que c'est un peu ça, c'est-à-dire que petit à petit, la préparation a dû se déliter. J'avoue que j'ai été très étonné, pour ne pas dire déçu, de constater que le stock de masques qui avait été constitué, ben finalement, n'avait pas été maintenu, renouvelé, comme on le fait dans un esprit de défense. Si vous voulez, quand un porte-avions est obsolète et fatigué, on essaye de le remplacer.
Vous dites très critiqué à l'époque, c'est plus que ça. Je rappelle que les sénateurs de la commission d'enquête ont alors accusé l'OMS d'avoir été manipulé par l'industrie pharmaceutique, d'avoir inventé une pandémie pour faire vendre des vaccins. Hein. C'était ça quand même.
Vous avez raison. Il y a eu la mission d'information parlementaire, commission d'enquête de l'Assemblée nationale, commission d'enquête du Sénat, Cour des comptes. Et je me souviens d'avoir même passé une journée à la rue du Château des Rentiers à la police, parce qu'on nous accusait effectivement d'avoir été, sinon roulé par l'industrie, peut-être même corrompu.
Oui. Vous écrivez aussi, Didier Houssin, que le risque pandémique est toujours dominé par l'incertitude. Ça veut dire qu'il faut toujours prévoir le pire?
Oui, je pense qu'il faut, si vous voulez, c'est une leçon quand même du passé, c'est que les épidémies, c'est comme les guerres, ça se reproduit de façon régulière et qu'il y a intérêt à s'y préparer. Je pense qu'il ne faut plus les subir comme on le faisait dans le passé et comme malheureusement on l'a peut-être encore trop fait, il faut essayer de s'y préparer au maximum. Alors, ça ne veut pas dire que la préparation sera une préparation totalement adaptée, mais anticiper la production de vaccins contre un coronavirus qui est déjà sorti en 2003 et en 2012, est-ce que ça n'est pas possible? Anticiper la production d'antiviraux face à un coronavirus, maintenir des stocks de masques dont on sait que quand on n'a rien, bah finalement, c'est la seule arme qui permet un peu de protéger les soignants et qui peut aussi un peu rassurer le public. Voilà, tout ça, c'est sans parler des préparations d'organisation, de stratégie qu'il faut mener.
Oui, je cite le titre du dernier chapitre de votre livre, Didier Houssin, « La prochaine fois, serons-nous bien préparés ?» Et vous devez constater aujourd'hui que la réponse a été non. Et c'est un peu désespérant, non?
Ben c'est un peu décevant, même si ça n'interdit pas d'espérer pour l'avenir que nous serons mieux préparés la prochaine fois.
Alors entre-temps, je dois dire que vous êtes également au sein de l'OMS le président du comité d'urgence Covid-19, donc comité d'experts qui a recommandé au directeur de l'OMS à la fin janvier de déclarer l'épidémie actuelle urgence de santé publique de portée internationale. Vous trouvez que c'est une alerte qui a été prise au sérieux?
Bah écoutez, oui, je pense qu'elle a été prise au sérieux dans la mesure où ça a permis à l'OMS de formuler un certain nombre de recommandations, ça a permis d'alerter les États membres. Est-ce qu'ils ont tous réagi de façon rapide? Est-ce qu'ils ont tous... Ça, c'est une question qu'il faudra examiner à la fin. Malgré tout, cette pandémie a des caractères tout à fait particuliers par sa, finalement, la contagiosité du virus, la rapidité de la propagation à la surface du globe. Donc, c'est un peu tôt pour tirer des leçons, mais il faudra le faire sur la façon, par exemple aussi, dont les États membres développés ont coopéré et aidé les pays les plus pauvres, parce que la question va quand même devenir cruciale, par exemple en Afrique.
Oui, c'est une situation qui peut être très inquiétante dans des populations très vulnérables et qui ne peuvent pas être confinées comme dans les pays développés.
Mais c'est difficile pour un pays développé lui-même en situation très difficile d'aider un autre pays. Hein. Voyons la situation en France, elle n'est quand même pas facile.
La Chine a-t-elle tout dit à l'OMS sur le démarrage, la nature et l'ampleur de l'épidémie?
Écoutez, moi je ne suis pas placé pour faire des enquêtes et du renseignement et tout ça. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que les cas ont été signalés fin décembre à l'OMS, que très vite la Chine a su isoler le virus, séquencer son génome, a très vite mis la séquence génomique sur une base européenne de données de séquence génétique. Voilà, lorsque le comité s'est réuni la première fois le 22 janvier, les autorités chinoises ont présenté la situation épidémiologique. Bon, il n'y avait pas d'éléments qui laissaient soupçonner que des choses étaient cachées. Mais vous savez, pour des autorités sanitaires d'un grand pays comme la Chine, c'est pas facile d'agréger les données, de faire remonter du terrain, comme on dit, de la ville, de la région, et de s'assurer de la qualité des informations qui remontent. Il y a aussi des aspects techniques qu'il faut considérer dans la présentation des données épidémiologiques.
Mais aujourd'hui, Didier Houssin, il n'y a pas un bilan chinois qui pose question compte tenu du développement de l'épidémie dans le reste du monde?
Bah, disons que la Chine a connu une épidémie très importante. Actuellement, quand on regarde la courbe, effectivement, la situation s'est à peu près normalisée, même s'il y a probablement des cas qui reviennent actuellement en Chine et qui risquent de faire repartir une éventuelle vague épidémique. Bon, je pense que ces analyses précises de la véracité de l'ensemble des données épidémiologiques, c'est pas en cours de situation de crise qu'on peut faire les choses. Il faut aborder ça de façon scientifique et je pense qu'il y a des épidémiologistes qui feront ce genre de travail.
Bien sûr, mais vous avez souligné tout à l'heure un élément clé, c'est-à-dire la contagiosité de ce virus. C'est cet élément-là qui a surpris le monde entier et qui sans doute a fait baisser la vigilance sur son danger, sur son risque de propagation. Quand avez-vous pris conscience, vous, comme expert, comme spécialiste, du danger possible d'une pandémie mondiale qui puisse toucher tous les pays développés?
C'est assez simple. C'est-à-dire que le 23 janvier, lorsque le comité a été convoqué, et qu'il y avait 4 cas en dehors de Chine, et le comité a en gros été partagé, la moitié disait c'est trop tôt, la moitié disait si, c'est une urgence. Donc la position de consensus a été de dire c'est un peu trop tôt, mais on va quand même formuler des recommandations au directeur de l'OMS, et on va lui dire qu'on est prêt à être convoqué, évidemment, dans les jours qui viennent. Et effectivement, une semaine plus tard, il n'y avait plus 4 cas, mais 80 cas à l'étranger, et le comité, à la quasi-unanimité, a considéré que c'était bien une urgence de santé publique de portée internationale. Donc ça veut dire que malgré tout, la rapidité de propagation a été l'élément qui a déterminé le comité.
Merci beaucoup Didier Houssin d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1.
Merci.